Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, ce barrage qui menace de sauter.
Le barrage qui retient ces milliers de djihadistes en Syrie. Ils sont actuellement confinés dans des camps de prisonniers gérés par les Kurdes. Mais ces derniers sont désormais affaiblis par l'assaut turc. C'est une guerre aux conséquences imprévisibles qui vient de commencer. En Allemagne, deux morts en marge d'une tentative d'attentat contre une synagogue. Le bain de sang a été évité. Pour l'assaillant, rien ne s'est passé comme prévu, on vous racontera. À la une également, Angleterre-France. Le choc attendu en Coupe du Monde de rugby samedi n'aura pas lieu. Le match est annulé au Japon à cause d'un typhon, du jamais vu. Et puis ce jeudi est la journée mondiale de la santé mentale. Il y a plus d'un an, le gouvernement annonçait des mesures pour la psychiatrie. Ont-elles permis de relancer ce secteur sinistré? Ce sera la question du 8h.
Notre météo, Marina Giraudot.
Encore beaucoup de nuages et quelques averses ce matin. Dans l'après-midi, petite amélioration avec même le retour d'éclaircies si vous êtes vers la Loire, la Seine, la Franche-Comté, les Alpes, la Méditerranée et le Sud-Ouest. Les températures vont remonter un petit peu, entre 15 et 19 degrés sur la moitié nord, 20 à 25 sur la moitié sud.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
En Syrie, c'est une attaque qui risque de porter atteinte à la sécurité des Européens. Ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. L'offensive des Turcs contre les forces kurdes a déjà fait 15 morts. La phase terrestre de l'opération a commencé hier soir. L'annonce du retrait américain a ouvert la voie à une guerre dont il est bien difficile ce matin de prédire les conséquences. Les Kurdes, qui furent nos alliés dans la lutte contre Daesh, maintenait une digue précieuse contre la dispersion des terroristes. Bonjour Pierre-Julien.
Bonjour Jérôme.
Il y a aujourd'hui 10 000 djihadistes qui sont retenus dans des camps de prisonniers au nord de la Syrie, des camps gérés par les Kurdes. La question que je vous pose, elle est très simple. Est-on face à un risque d'évasion massif de ces djihadistes?
Oui, hein, les combattants kurdes le disent eux-mêmes. Désormais, seuls abandonnés par leur allié de circonstance américain, leur priorité est de lutter contre ce qu'ils appellent l'envahisseur turc. Ils ne vont plus avoir donc le temps et encore moins les moyens déjà de réduire les petites poches de résistance de Daesh qui existent encore dans le secteur et surtout de surveiller, vous l'avez dit, les quelques 10 000 djihadistes qu'ils détiennent dans plusieurs camps. Parmi ces prisonniers, 2 000 occidentaux, dont au moins une cinquantaine de Français. Ces derniers peuvent donc profiter de la confusion et s'échapper en rejoignant dans une première étape, pourquoi pas la Syrie ou la Turquie, qui les avait, rappelez-vous, laissés passer sans grande difficulté au moment de la création du pseudo-califat islamique.
Et il faut bien comprendre, Pierre, que l'objectif des Turcs est de balayer du territoire de ces Kurdes qui pour eux sont des terroristes.
Oui, l'armée turque applique le plan prévu depuis plusieurs mois en cas de retrait des forces spéciales US. L'opération Source de paix, c'est son nom, doit vider ce que Recep Erdogan appelle le corridor de la terreur à la frontière turco-syrienne, ce territoire occupé par les Peshmerga, les unités de protection kurdes. Les raids aériens, les tirs d'artillerie, l'offensive terrestre avec de nombreux blindés ont déjà eu pour conséquence des morts et l'exode de plusieurs milliers de civils paniqués.
Merci Pierre-Julien.
Et nous débattrons de ces dangers à 8h20 avec Dorothée Schmidt qui est chercheur à l'IFRI, spécialiste des questions turques, et Marie Dose, avocate des familles de djihadistes français retenus dans les camps kurdes.
RTL Matin, 8h03.
On en vient à ce coup de théâtre au mondial de rugby au Japon.
C'était à 5h ce matin, le directeur du mondial de rugby, Alan Gilpin, annonçait l'annulation du match Angleterre-France.
The pool C match between England and France at Yokohama Stadium will be cancelled.
Le choc prévu samedi n'aura pas lieu à cause du typhon attendu en fin de semaine. C'était le dernier match de poule des Bleus. Même punition pour Nouvelle-Zélande, Italie. Les organisateurs n'ont pas voulu prendre de risques. Alors, quelles conséquences pour notre 15 de France, Yann Boucherie?
Eh bien, le statu quo dans ce groupe, puisque 2 points sont octroyés à chaque équipe. La France terminera donc 2e et jouera son quart de finale a priori contre le Pays de Galles s'il bat l'Uruguay dimanche. La Fédération française a réagi par communiqué en prenant acte de l'annulation et incité ses supporters à la prudence en attendant le typhon Agibis. La délégation tricolore, elle, a pris tôt ce matin en bus la direction non pas de Tokyo, mais d'Oita, dans le sud de l'île principale de Kyushu. Le staff envisage maintenant un match amical avec une équipe locale pour éviter d'arriver en quart de finale le 20 octobre après 15 jours sans compétition. D'ici là, les Bleus risquent tout de même de trouver le temps long.
Merci beaucoup Yann Boucherie.
RTL, il est 8h04.
À Rouen, nous sommes à 2 semaines jour pour jour après l'incendie de Lubrizol.
Les taux de dioxine relevés au nord de la ville sont au-dessus de la normale. De nouveaux prélèvements au sol seront effectués à partir d'aujourd'hui. C'est inhabituel, mais pas alarmant, hein, précisent les autorités. Les agriculteurs de 112 communes ont toujours interdiction de vendre leur production, comme Sébastien Bulleux, qui est éleveur laitier. Ça fait 15 jours qu'il est obligé de jeter son lait.
On attend avec impatience que le décret soit, le préfet lève les sanctions pour qu'on puisse en mettre le lait dans le cycle normal de la laiterie et puis qu'on puisse se lever le matin et puis qu'on gagne de l'argent sans mettre le lait par terre. Parce que là, moi, je suis arrivé à 12 000 litres de lait par terre à peu près, une moyenne de 35 centimes. Je vous laisse faire le compte, ça, ça a fait un budget.
Deux semaines, c'est long. Hein.
Ah, c'est très long, oui. C'est très long.
Propos recueillis par Frédéric Veille pour RTL. Éradiquer le sida d'ici 2030, c'est réaliste, veut croire Emmanuel Macron. La France accueille pour la première fois le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le rendez-vous se déroule à Lyon jusqu'à ce soir. Le fonds espère collecter au moins 14 milliards de dollars. Un autre chiffre ce matin, 424 000, c'est le nombre de patients hospitalisés en psychiatrie en France. Ce jeudi est la journée mondiale de la santé mentale. On sait que le secteur de la psychiatrie est sinistré. C'est le parent pauvre de la médecine. En juin 2018, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait présenté 37 mesures pour améliorer la prise en charge de ses patients.
Alors, plus d'un an après, ce plan a-t-il commencé à faire bouger les choses? Eh bien, c'est la question du 8 heures.
Avec vous, Odile Pouget, bonjour.
Bonjour.
D'abord, il faut parler du manque d'effectifs dénoncé régulièrement par les professionnels du secteur. On a recruté davantage?
Alors oui, certains établissements au bord de l'implosion ont obtenu des postes supplémentaires, infirmiers, aides-soignants, 30 par exemple pour l'hôpital du Rouvray près de Rouen ou pour celui d'Amiens. Dans le secteur de la pédopsychiatrie, à bout de souffle, 20 postes de chef de clinique ont été créés. Mais dans le même temps, ce qui frappe, c'est la difficulté à recruter. 30% des postes de psychiatres dans les hôpitaux seraient ainsi vacants, faute d'attractivité.
Les mesures présentées il y a plus d'un an ont-elles déjà été mises en œuvre?
Oui, elles sont quasiment toutes engagées ou programmées. Parmi les plus avancées, il y a ce dispositif vigilance qui consiste à rappeler systématiquement chaque personne qui a fait une tentative de suicide. Un suivi personnalisé, actuellement étendu à 50% du territoire, très efficace pour prévenir la récidive. Et puis pour désengorger les CMP, les centres médico-psychologiques, où il faut parfois compter jusqu'à un an pour obtenir un rendez-vous, eh bien une expérimentation dans 3 régions permet d'adresser des jeunes à partir de 11 ans à des psychologues en libéral, consultation prise en charge par l'assurance maladie après une évaluation par un généraliste.
La question du 8h avec ce matin Odile Pouget. On part en Allemagne dans quelques instants. Le terroriste qui visait une synagogue a tout filmé de bout en bout, mais rien ne s'est passé comme prévu.
RTL 8h07.
RTL Matin.
RTL 8h10, la suite du journal. Jérôme Florin. Yves Calvi.
En Allemagne, un projet d'attentat contre une synagogue a fait 2 morts. Ça s'est passé à Halle, c'est au sud de Leipzig. Vous avez bien dit, j'ai bien dit projet d'attentat, car le terroriste équipé d'une caméra, il était en direct sur un réseau social, a tenté de s'en prendre à une synagogue, mais rien ne s'est passé comme prévu, Blandine 1100.
Oui, on est vraiment passé à côté d'un massacre. Imaginez qu'il y avait une cinquantaine de personnes dans cette synagogue, protégées heureusement par une porte en bois massif fermée à double tour. Et ces personnes ont vu par la caméra de surveillance à l'extérieur cet homme casqué, lourdement armé, qui malgré ses tirs de fusil à pompe n'a pas réussi à défoncer la porte. Si ces personnes sont encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à cette porte, mais c'est aussi parce que Stefan B., cet Allemand de 27 ans, originaire de la Saxe-Anhalt, ne s'était sans doute pas attendu à ce genre d'obstacle. Dans la séquence qu'il a filmée, on l'entend crier « fuck » et dire « ils vont peut-être sortir ». Si ça n'était pas si dramatique, ça ressemblerait à une tragicomédie de Tarantino sur un terroriste amateur. Stéphane B. de dépit va se venger sur une passante puis sur le client d'un restaurant turc en les abattant à bout portant. Quand il revient à sa voiture, il se traite de loser. Il dit en s'adressant à un public supposé « désolé les gars, j'ai fait de la merde, j'ai essayé de tuer des gens ». Et toujours dans cette séquence, Stéphane B. nie l'Holocauste. Il dit que les Juifs sont à l'origine de tous les problèmes. Et cette attaque pose aussi, bien sûr, la question de la sécurité des Juifs en Allemagne, pays où les actes antisémites ont augmenté de 20% en 2018 par rapport à l'année précédente.
Merci beaucoup, Blandine 1100. En France, une semaine après l'attentat qui a fait 4 morts à la préfecture de police de Paris, alors que l'islam est encore montré du doigt, le président de la conférence des imams de France, Hassan Chalgoumi, appelle à un rassemblement des musulmans en soutien aux victimes ce soir à 18h, place Saint-Michel.
RTL 8h12.
À 5 mois des municipales, beaucoup de maires hésitent encore à se représenter.
Ils sont nombreux à attendre de voir ce que va donner ce texte qui est actuellement débattu au Sénat. C'est un projet de loi sur le statut de l'élu, censé enrayer la crise des vocations. Il doit notamment renforcer les pouvoirs des maires, revoir leurs indemnités. On parle d'un job à plein temps. Samuel Goldschmidt a suivi l'édile d'un tout petit village entre Gérardmer et Saint-Dié, les Arentès de Corcieux, 180 habitants et son maire, au four et au moulin. RTL en immersion.
Bonjour.
Ça n'est pas vraiment l'heure de la permanence, mais Michel Fettet est à son bureau dans la mairie.
Bah on est là tous les jours, en fin de compte. La maire, il passe tous les jours à la mairie, je pense, quelque part. Mais je pense qu'on est maire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Le maire est aussi beaucoup sur les routes de sa commune.
C'est très attendu, hein, c'est 1700 hectares. Pour vous donner une idée, les deux maisons les plus éloignées, c'est 10 km à vol d'oiseau. Les routes, c'est 38 km de route chez les Arentais.
Et il faut savoir s'occuper de tout, les administrés en sont témoins.
On a eu un problème une fois, je sais pas, il était pas loin de minuit et tout ça. Bon, bah, il est venu, quoi, et puis il s'occupe. Hein, des maires comme ça, on n'en voit pas beaucoup.
Hein. Le pire que j'ai vu, je pense que c'est résoudre des problèmes de ménage. Ils se bigornaient entre eux et le mari a mis son épouse dehors. En hiver. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans la vie privée des gens.
Alors, de temps en temps, il aimerait bien que son statut soit amélioré. Il touche, par exemple, 600 euros bruts d'indemnité chaque mois.
Si je prends 100 euros de plus d'indemnité de maire, multiplié par 12, c'est 1200 euros. 1200 euros, je vais vous expliquer. C'est 10 tonnes de macadam pour boucher les trous dans la commune. Et c'est énormément de trous bouchés.
Il sort d'une réunion sur la fibre, doit gérer un projet d'élevage de 12 000 poules qui inquiète des voisins. Alors il y retourne.
Ah bah, suite de la journée, il y a déjà de la permanence tout à l'heure. Ben, relevez le compteur à Château d'Eau.
Donc je vous laisse, vous continuez le travail.
Je continue le travail.
À bientôt.
À bientôt.
Allez, bon courage à lui, RTL en immersion, signé Samuel Goldschmidt.
Nous terminons avec le chiffre du jour.
14, c'est le nombre de femmes qui ont obtenu le prix Nobel de littérature. Oui. Alors qu'on attend aujourd'hui l'heureux élu, 14 sur 114 lauréats depuis que le prix existe. Soit les jurés sont sexistes, soit les femmes écrivent moins bien que les hommes. Je vous les juge.
Et nous avons déjà, nous, Français, 15 prix Nobel de littérature. Ces chiffres disent tout. C'était le journal de Jérôme Florin.